La période qui va de 1870-1871 jusqu'à 1914, c'est-à-dire au début de la Première Guerre mondiale, est une période qui, d'un point de vue politique, est marquée par la mise en œuvre du programme républicain. C'est-à-dire que pour la première fois, les républicains, les tenants d'un système républicain et démocratique, vont avoir la durée pour eux, vont avoir la possibilité d'installer les mesures, les symboles qu'ils ont envie de mettre en avant pour incarner donc ce système politique. Pourtant, la naissance de cette Troisième République est difficile, elle est liée à la guerre. On sait que c'est la défaite de Napoléon III à Sedan qui conduit à la proclamation de la République le 4 septembre 1870. Le gouvernement provisoire, qui s'intitule gouvernement de défense nationale, poursuit la guerre pendant les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Mais fin janvier, les armées françaises ne sont plus en état de combattre et les représentants donc, du gouvernement de défense nationale vont accepter l'idée de discuter avec le gouvernement allemand, le gouvernement de l'Empire allemand. Cela aboutit à une défaite, évidemment, militaire, mais également diplomatique, avec la signature du traité de Francfort le 10 mai 1871. Cette naissance, elle est également rendue compliquée par une tentative révolutionnaire, la Commune de Paris, qui dure de mars à mai 1871, qui est une véritable guerre civile entre d'un côté la ville de Paris, qui n'a pas accepté les résultats des élections législatives de février 1871 et qui donc se soulève et entreprend donc de gouverner comme si Paris était le siège du gouvernement français alors que celui-ci est installé à Versailles. Ça se termine mal pour ce qu'on appelle les communards. Ces révoltés parisiens, fin mai 1871, c'est la semaine sanglante, les troupes versaillaises entrent dans Paris et commettent de nombreux massacres. La Commune de Paris est terminée et avec elle, c'est toute une frange radicale, si on peut dire, du monde républicain, révolutionnaire, qui va pendant un certain temps être condamné au silence, du moins jusqu'à ce que, au début des années 1880, les principaux leaders, les principaux chefs de ces communards soient amnistiés. Troisième élément difficile de la naissance de cette république, c'est la menace d'une restauration monarchique. En effet, l'Assemblée qui a été élue en février 1871 est une assemblée majoritairement peuplée de députés favorables à la restauration de la monarchie en France. Ce qui va sauver quelque part la République, c'est que le candidat au trône de France, Henri, comte de Chambord, a des exigences trop élevées, ne veut pas céder sur un certain nombre de principes. Donc les monarchistes attendent, le temps passe, on installe un président de la République, le maréchal MacMahon, qui, comme il le dit, garde la place en attendant la mort du prétendant au trône, le comte de Chambord. Comme il faut bien quand même organiser un minimum le gouvernement de la France, qui reste sous une forme provisoire. En 1875, des lois constitutionnelles sont votées. L'avantage de ces lois constitutionnelles, qui sont relativement simples, c'est qu'elles instaurent un régime parlementaire qui peut être aussi bien une république qu'une monarchie. Tout dépend de qui est le chef de l'État. Cependant, la naissance difficile de la République va peu à peu se transformer en réussite pour les républicains. Ils remportent les élections en 1876 et à partir de ce moment-là, une crise les oppose au président monarchiste MacMahon, crise dont les républicains finissent par sortir vainqueurs. En 1879, MacMahon démissionne et désormais les républicains contrôlent tous les organes de la République, la présidence de la République, le gouvernement, la Chambre des députés et le Sénat. C'est donc à partir de ce moment-là, véritablement, que peut se mettre en place le programme républicain. Ceux qui vont mettre en place ce programme républicain, on va les qualifier de manière un peu péjorative de républicains opportunistes. Ils vont assurer le gouvernement du pays entre 1879 et 1902 et organiser la République au milieu de périodes de tension qui, à chaque fois, vont menacer la République. Ces opportunistes cherchent en effet à installer la République, mais sans heurter les adversaires de celle-ci. Ce qui n'est pas réciproque, on va le voir. Donc ils décident d'abord de passer par des mesures symboliques en adoptant des lois fondées sur le passé révolutionnaire qui instaure une véritable démocratie. Donc des lois qui font de la Marseillaise l'hymne national, le 14 juillet la fête nationale, le drapeau tricolore est maintenu comme drapeau de la France, et après la mort de Victor Hugo en 1885, le Panthéon redevient le lieu où on va déposer les cercueils des personnes dont on estime qu'elles ont agi pour le bien du pays. Des lois libérales sont passées sur la presse, sur les syndicats, sur le couple, à travers les lois sur le divorce. Et les lois les plus connues de cette période-là sont bien évidemment les lois scolaires attribuées à Jules Ferry qui vont rendre l'école obligatoire, gratuite et laïque. Trois grandes crises vont renforcer la République parce qu'à chaque fois, les courants anti-républicains vont être vaincus. Première crise, le boulangisme, à la fin des années 1880, autour donc de ce personnage, de ce militaire, le général Boulanger, qui devient extrêmement populaire, mais qui refuse finalement au dernier moment de tenter le coup de force aurait peut-être pu lui permettre de prendre le pouvoir. Le scandale de Panama est la deuxième de ces crises en 1892-93, un scandale politico-financier, dirait-on aujourd'hui, qui fait que les opposants à la République pointent du doigt les députés et les sénateurs qui ont été corrompus et en font les symboles donc de la faible qualité finalement intellectuelle et morale de la République. Et enfin, la dernière crise importante, c'est la célèbre affaire Dreyfus entre 1894 et 1906, donc cette crise qui voit la France se diviser autour du sort d'un militaire, le capitaine Dreyfus, accusé à tort de trahison au profit de l'Allemagne. Face à toutes ces crises, un gouvernement de défense nationale et républicaine est mis en place à la fin du siècle. Ce gouvernement mène une action qui cherche à contrer ces nationalistes anti-républicains qui, par ailleurs, sont également racistes, xénophobes, antisémites. Il sort de ce gouvernement de défense républicaine une loi très importante, qui est la loi sur les associations en 1901, et également une évolution vers les questions sociales. On va avoir une république qui désormais va essayer d'améliorer le sort des Français. D'autant plus qu'en 1902 intervient un basculement politique important avec l'arrivée au pouvoir des radicaux. Les radicaux, ce sont les républicains les plus à gauche et eux, ils sont partisans de croiser le fer avec les adversaires de la République. Premier adversaire important de la République, l'Église catholique, les religions de manière générale, mais surtout l'Église catholique. Les radicaux sont favorables à l'instauration d'une république laïque. C'est au bout d'un long travail de préparation, la loi de séparation des églises et de l'État de décembre 1905, qui règle la question et instaure la laïcité en France. À la suite de cette loi, il va y avoir un certain nombre de difficultés, de tensions, car tout ce que possédaient les églises désormais doit revenir à l'État et il y a de fortes tensions qui s'instaurent à l'occasion de ce qu'on appelle les inventaires, c'est-à-dire le moment où on doit décider ce qui reste à l'Église et ce qui passe à l'État. La République radicale, elle veut également une plus grande égalité entre les Français. Ça se traduit notamment par une mesure importante qui est l'adoption de l'impôt sur le revenu en 1914, qui est donc un impôt qui prend en compte le niveau de richesse des citoyens français et donc introduit un petit peu plus d'égalité entre eux. Il n'empêche que cette période de la République radicale est une période durant laquelle il y a certes du progrès social, mais également une répression des mouvements ouvriers. Ce qu'il symbolise le mieux, c'est le gouvernement Clémenceau entre 1906 et 1909. Le gouvernement Clémenceau est le premier à créer un ministère du travail, c'est-à-dire qu'il va donc se soucier du sort des travailleurs. Mais lorsque les cheminots, les postiers, les vignerons se soulèvent, tentent des actions, Clémenceau envoie l'armée pour s'opposer à ces différents mouvements sociaux. Ces mouvements sociaux nous amène à évoquer les transformations de la société française avec cette période républicaine. Pendant la période républicaine jusqu'en 1914, l'économie de la France continue à prospérer, hein, l'industrialisation, pardon, se poursuit, s'accélère avec le succès de l'industrie traditionnelle, celle de la première phase d'industrialisation, mais aussi l'apparition de nouvelles industries, ce que l'on a appelé pendant un certain temps la deuxième révolution industrielle, qui se traduit par de nouvelles énergies, l'énergie des hydrocarbures, le pétrole ou le gaz, et l'énergie électrique. Cela permet le développement de nouvelles industries, la chimie, l'automobile, l'aviation, par exemple. En revanche, c'est une période où la France a tendance commercialement à se refermer sur elle-même, en ayant recours à des pratiques protectionnistes, c'est-à-dire en protégeant son marché des produits étrangers. Il n'empêche que la France veut exister aux yeux du monde. Elle fait partie des quatre grandes puissances industrielles mondiales de cette période de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et ça se traduit par plusieurs expositions universelles. Une se tient en 1878, mais n'a pas le succès que vont avoir l'exposition universelle de 1889, qui est là pour célébrer le centenaire de la Révolution française et dont l'emblème va être la tour de 300 mètres construite par Monsieur Eiffel. Et 11 ans plus tard, pour faire le bilan finalement du 19e siècle et ouvrir sur le 20e siècle, une nouvelle exposition universelle est organisée à Paris, exposition universelle dont un des fleurons est la mise en service du métro parisien. À ces transformations économiques qui continuent à montrer le dynamisme économique français, s'ajoute l'évolution de la situation du monde ouvrier. Le monde ouvrier progresse, il y a de plus en plus d'ouvriers, mais ces ouvriers restent sous la domination de patrons qui ont souvent des comportements paternalistes, c'est-à-dire qui considèrent qu'ils sont les plus à même de décider à la place de leurs ouvriers ce qui est bon pour eux. Ces comportements paternalistes, évidemment, provoquent des réactions de la part des ouvriers qui n'entendent pas se laisser dicter leur conduite par leur patron. De fait, cette période est une période qui voit un monde ouvrier en lutte pour obtenir de meilleures conditions de travail. On veut réduire le temps de travail. L'objectif, c'est d'obtenir la journée de 8 heures. On en est loin encore dans les années 1880. Les ouvriers veulent également des meilleures protections, protection en cas d'accident, protection en fin de vie, avec système des retraites. Et ils veulent également des salaires qui soient beaucoup plus importants et qui puissent leur permettre de vivre de manière décente. Les résultats de ces mobilisations, notamment des grèves du monde ouvrier, sont contrastés. Si on adopte un certain nombre de lois sociales, comme par exemple l'interdiction du travail des enfants avant 12 ans en 1874, ou la journée de 10 heures en 1900, ces mesures sont généralement des mesures qui ont des arrière-pensées. Hein. Il s'agit de protéger de futurs soldats, que ce soit les enfants ou les ouvriers, en ne les mettant pas inutilement en danger. De manière générale, lorsque les ouvriers mènent des actions de type grève avec blocage des usines, ils sont violemment réprimés par le pouvoir républicain, comme par exemple en 1891 ou lors des manifestations du 1er mai, l'armée tire sur la foule des ouvriers à Fourmies dans le nord. Cette répression s'explique tout simplement par le fait que les gens qui sont au pouvoir, même les républicains radicaux, restent des bourgeois avec la mentalité bourgeoise qui est que l'ouvrier doit se plier aux ordres, que ce soit les ordres du patron ou les ordres de l'État. Dans cette société, certaines populations se trouvent marginalisées. La situation des femmes est particulièrement intéressante puisque les femmes qui ont toujours travaillé vont être petit à petit écartées du monde du travail, tout simplement parce que on veut éviter d'avoir des femmes incapables de mettre au monde des enfants en bonne santé. Donc on va leur interdire certains travaux difficiles, on va leur interdire le travail de nuit. Ces femmes sont peu amenées à suivre une scolarité longue. Quelques femmes se font remarquer par leur qualité et réussissent à faire des études supérieures, mais elles sont extrêmement minoritaires. Leurs salaires sont bien évidemment déjà à l'époque inférieurs largement à ceux des hommes, et leur place politique est extrêmement réduite puisqu'on refuse d'adopter encore et toujours le droit de vote pour elles. Deuxième type de population marginalisée dans cette France qui connaît une croissance économique, ce sont les étrangers. À la fin du 19e siècle, la France vieillit, elle a besoin de main-d'œuvre jeune. Cette main-d'œuvre, elle va venir de l'étranger, des pays voisins, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, de la Belgique notamment. Mais ces populations vont être victimes de xénophobie. On les accuse notamment de vouloir venir prendre le travail des Français en acceptant des salaires très bas. Cela se traduit donc par des actes extrêmement violents visant ces étrangers, comme par exemple le massacre des Italiens commis à Aigues-Mortes en 1893. L'étranger, c'est certes celui qui habite dans des pays voisins de la France, mais l'étranger, c'est aussi celui qui vit dans ces territoires que la France va entreprendre de prendre sous son contrôle. Ces territoires, ce sont les territoires colonisés essentiellement en Afrique et en Asie. Aux origines de cette colonisation, il y a une nécessité économique, obtenir des ressources et des débouchés pour les productions nationales. Effectivement, une colonie ne peut acheter et vendre qu'à sa métropole, c'est-à-dire au pays qui l'a colonisé. Pour la France, ça a en plus un objectif politique. Il s'agit de redorer l'image du pays après la défaite de 1870-1871. L'armée française ne va plus combattre sur le territoire européen. L'armée française, elle va être envoyée pour surveiller, coloniser des territoires en Afrique, en Asie, dans le Pacifique, durant toute cette période républicaine. Et puis, on trouve une justification à cette colonisation dans le fait que il s'agirait de civiliser des races inférieures, c'est-à-dire de leur apporter le savoir que les Européens et les Français notamment possèdent par rapport à des populations que l'on juge comme étant encore à l'état sauvage. L'empire colonial français s'est constitué en plusieurs étapes. Il y en a eu un à l'époque moderne, à l'époque de Louis XIV, mais cet empire a été perdu en grande partie au XVIIIe siècle. Il en reste quelques morceaux des îles, notamment dans les Antilles. Et la colonisation a recommencé véritablement à partir de 1830 en Algérie. Sous le Second Empire, cette colonisation de l'Algérie s'est poursuivie et en même temps, on a commencé à poser quelques jalons en Asie du côté de l'Indochine. L'essentiel de la conquête militaire coloniale française va s'effectuer dans les années 1880-1890, essentiellement, comme je l'ai dit, en Afrique et en Asie. Cette colonisation est globalement acceptée en France, puisqu'elle est vue comme un moyen de renforcer la puissance du pays. Cependant, elle peut être contestée, contestée évidemment par les populations indigènes à la colonisation qui peuvent se révolter. Elle peut être contestée par d'autres puissances coloniales lorsque deux pays se disputent le même morceau de territoire. C'est ce qui arrive avec l'Angleterre, par exemple, lors de la crise de Fashoda en 1898, où la France et l'Angleterre se disputent le Soudan. Et puis certains républicains, comme Clémenceau ou les socialistes, refusent purement et simplement l'idée qu'on puisse imposer une forme de colonisation, de supériorité à d'autres peuples. Cette colonisation en France, elle va prendre des formes différentes. D'abord, il y a des statuts différents pour les colonies. Les territoires les plus anciens, les îles, sont déjà très rattachés au territoire métropolitain français et donc ne sont plus tout à fait considérés comme des colonies. Il y a une colonie très particulière et ça jouera un rôle dans le futur très important. Cette colonie particulière, c'est l'Algérie. Parce que c'est ce qu'on appelle une colonie de peuplement. On a envoyé, sous le Second Empire, sous la Troisième République, des Français en Algérie pour qu'ils s'y installent, pour qu'ils y développent l'agriculture, l'industrie, etc. Ils sont minoritaires en Algérie, mais c'est eux qui concrètement tiennent le pouvoir dans cette colonie. Vous avez ensuite ce qu'on appelle des colonies d'exploitation, c'est-à-dire des colonies à la tête desquelles il y a un gouverneur. Ces colonies, elles sont rassemblées au début du XXe siècle dans de grandes structures. Vous avez l'AEF, l'Afrique équatoriale française, l'AOF, l'Afrique occidentale française, et le cas particulier de l'île de Madagascar au large de l'Afrique du Sud. Et puis vous avez le système qu'on appelle le système des protectorats, comme le Maroc ou la Tunisie. Ce sont des pays qui sont théoriquement indépendants, mais qui dans la réalité sont largement contrôlés par une puissance coloniale. Cette domination coloniale s'exerce sur des populations qui sont soumises et exploitées. L'esclavage est aboli depuis 1848, mais on trouve une nouvelle façon de faire travailler ces populations à travers ce qu'on appelle le travail forcé. C'est-à-dire que la population est mobilisée pour effectuer un certain nombre de travaux. Parfois pénibles, comme la construction de voies ferrées ou l'exploitation de plantations. Ces populations ne sont pas considérées comme françaises. Elles ont leurs propres règles qui va être unifiée, qui vont être unifiées, pardon, en 1887 autour de ce qu'on appelle le code de l'indigénat. L'indigène, donc celui qui vit dans la colonie depuis avant l'arrivée des Français, est soumis à une inégalité politique et juridique. Il n'a pas de droit de vote, les lois ne sont pas les mêmes pour lui. Et la domination coloniale, elle se traduit également par la négation des cultures locales. On considère que toutes les cultures des populations que l'on a colonisées sont des cultures de sauvages, et donc il faut apporter la civilisation à ces populations, donc les acculturer, leur apprendre les bonnes manières, leur apprendre la langue française et accessoirement aussi les évangéliser, c'est-à-dire leur apporter la religion. La domination coloniale a un effet sur les territoires colonisés, elle contribue à les transformer, mais globalement, la modernisation, elle ne profite qu'aux colonisateurs. Ils construisent des ports, des chemins de fer, ils développent des exploitations agricoles, ils créent de nouveaux quartiers dans les villes qui ressemblent aux villes européennes, mais ils sont globalement les seuls à en profiter. L'amélioration de la vie quotidienne pour les populations locales existe, mais elle est très très limitée puisque juridiquement ces populations sont en situation d'infériorité.